Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. Lucie Barbarin a signé le journal et elle sera de retour à 9h pour une nouvelle édition.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Il est déjà présenté par beaucoup comme le successeur probable de Jean-Marc Ayrault à Matignon, si ce n'est de François Hollande à l'Élysée. Et à 3 jours de la conférence de presse du chef de l'État prévue mardi, il a battu à plate couture le président de la République en termes de couverture médiatique lors de la semaine écoulée. Le fruit de ce que de nombreux médias ont présenté comme son bras de fer avec Dieudonné, le polémiste antisémite qui se veut humoriste. J'ai nommé Manuel Valls. Question en contrepoint à notre émission de la semaine dernière sur Dieudonné qui a suscité d'abondants commentaires. Question, les médias font-ils la com du ministre de l'Intérieur? Pourquoi Manuel Valls semble-t-il fasciner le monde médiatique? Avec nous, deux journalistes qui connaissent bien le ministre de l'Intérieur et son entourage. David Revaud-Dallone, journaliste politique au Monde. Vous publiez Valls à l'intérieur chez Robert Laffont avec votre confrère Laurent Borédon. Et Nathalie Segone, journaliste politique à l'Opinion. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour également à Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS.
Bonjour.
Et à notre homme des images et du multimédia, Éric Chavroux.
Bonjour.
Tout à l'heure également, nous serons en ligne avec notre conseillère Louisa Corradini, correspondante à Paris du quotidien argentin La Nation. Avec au poste de pilotage ce matin, Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Bruno Gagnère-Fontanille. C'est le secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous vos commentaires.
Depuis plusieurs jours, on a vu Manuel Valls a été très actif dans cette affaire. C'est lui qui, avant-hier, a rédigé la circulaire recommandant l'interdiction des spectacles de Dieudonné. C'est également lui qui, cet après-midi, a saisi le Conseil d'État en urgence pour faire interdire le spectacle de ce soir. Écoutez la réaction du ministre de l'Intérieur. C'était il y a moins d'une heure au micro d'Amandine Atalaya à Brest.
J'espérais, j'attendais sereinement la décision de la plus haute juridiction administrative de notre pays. Elle s'est prononcée très clairement. Et ça n'est pas ma victoire, car ça n'est pas un combat personnel. Cela n'aurait aucun sens. C'est un combat qui est celui de la République, de nos valeurs. La République, elle a gagné ce soir.
À l'image de ce sujet de TF1, l'ouverture des journaux télévisés avant-hier soir a été totalement accaparée par ce sujet et les médias, pour la plupart, ont transformé l'affaire Dieudonné en duel Valls-Dieudonné. Le ministre de l'Intérieur a multiplié les interviews et les interventions publiques en bénéficiant d'une forte couverture médiatique. Alors ce matin, nous n'allons pas vous proposer une énième émission sur le dossier Dieudonné, mais plutôt réfléchir sur ce que cet épisode révèle des relations entre Manuel Valls et les médias. Le premier point, David Revaud-Dallone, Nathalie Segone, c'est que l'on a, avec cet épisode, l'illustration de la stratégie de communication du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire offensif, toujours offensif et omniprésent, on peut dire ça comme ça, Nathalie Segone ?
Omniprésent, mais alors toujours sur des sujets, il ne prend pas de risque dans l'opinion. Il ne prend pas de risque avec l'opinion. Et une fois de plus, il n'a pas pris de risque. C'est-à-dire qu'il est allé, il est monté sur ce sujet un 27 décembre entre Noël et le jour de l'an en décidant de tenter de faire interdire les spectacles de Dieudonné alors qu'il savait que majoritairement les Français rejetaient les propos. À ce moment-là, les sondages indiquaient que les Français rejetaient majoritairement ce que faisait Dieudonné, la tonalité de ses spectacles, etc. Donc, il avait l'opinion avec lui. Donc, il y a quand même...
Il y avait un risque juridique, mais pas nécessairement un risque en termes de communication.
Le risque juridique, il est évident. Il ne savait pas trop où il allait. C'était quand même assez hasardeux, son affaire. Mais il savait pas, il n'était pas sûr d'avoir le droit pour lui. C'était loin d'être évident. Et l'histoire n'est pas encore finie d'être écrite, de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il savait qu'il avait l'opinion avec lui. Il y a quand même une prise de risque assez limitée.
Omniprésent et offensif, David Revaud-Dallone ?
Je dirais d'abord, avant tout, c'est la ligne de la démarcation, la ligne de la provocation. C'est comme ça qu'il s'est construit Manuel Valls, il y a 5 ou 6 ans environ, au sein du Parti Socialiste. D'abord, en prenant le contre-pied exact de tous les tabous, entre guillemets, tous les dogmes du Parti Socialiste. C'est vrai sur la sécurité, c'est vrai sur la laïcité, c'est vrai sur l'islam et l'immigration, et c'est vrai aussi sur les questions économiques et sociales. Souvenez-vous, il avait soutenu la TVA sociale de Nicolas Sarkozy et avait fustigé les 35 heures chères à Martine Aubry. Donc c'est comme ça qu'il est d'abord repéré, identifié. Et ensuite, à partir de là, il va développer une stratégie très claire qui est d'utiliser l'opinion comme un bouclier pour se protéger contre ses propres camarades qui ne peuvent qu'être exaspérés par cette stratégie. Donc ça, c'est la première chose. Et après, à partir du moment où il a accédé au ministère de l'Intérieur, il y a 20 mois, il y a effectivement une stratégie de surexposition, d'occupation maximale du terrain qui est moins tournée vers la provocation, mais qui est finalement toujours sur le même thème. Il s'agit de sécurité, il s'agit d'immigration, il s'agit de laïcité. Et on en voit encore avec l'affaire Dieudonné Mbalambala l'exemple parfait.
Et y compris de façon, on va dire, presque tactique, là, en occupant le terrain dans les moments, on va dire, de creux, enfin, ces moments de vacances que l'on connaît bien, ce qui n'ôte rien, évidemment, à la sincérité de son combat contre l'antisémitisme, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a là une tactique assez délibérée, enfin,
oui,
c'est
bien
facile
sûr.
À décrypter.
Et alors, il faut quand même dire que Manuel Valls, si on regarde l'ensemble des personnalités du gouvernement et même de l'exécutif, a une communication redoutablement efficace. Il faut le dire, on est quand même dans un espèce de magma communicationnel d'où rien ne ressort vraiment, dont on se demande quelle est la ligne de tel ou tel ministre, qui ne sont d'ailleurs souvent pas d'accord entre eux. Le président est le premier à entretenir une forme de flou sur les positionnements idéologiques. Et donc, dans ce magma, eh bien forcément, la ligne Valls, qui est ferme, qui est très clairement identifiable, eh bien, elle ressort.
Avec une volonté de réagir vite, hein, c'est le premier chapitre de votre livre, Go Fast, hein,
Toujours aller très vite, se poser les questions, de savoir finalement quel est l'avantage, quel est le coût potentiel d'un déplacement sur le terrain, d'un fait divers, d'une émeute urbaine, d'une catastrophe naturelle. Mais en général, la décision est toujours la même, on y va et le plus vite possible.
Nathalie Segoun.
Pour rebondir sur ce que dit David, elle ressort parce que à mon avis, il est le seul à avoir une communication, à faire ça de façon professionnelle, à avoir autour de lui, dans son cabinet,
et
à prendre ça de façon très très professionnelle, alors que les autres ministres sont quand même très très en retard sur lui
et très amateur,
et très amateur, voilà, c'est ça.
Alors on va prendre un autre exemple. C'était il y a quelques semaines l'affaire dite du tireur de Libération et de la Défense, Abdelhakim Dekar.
Cette affaire d'ailleurs va renvoyer à une autre affaire d'une autre ampleur, malheureusement. Puisque c'est ce qu'on a appelé l'affaire Rémopin à l'époque. En octobre 1994, trois policiers ont perdu...
Alors à ce moment-là, on avait quand même vu Manuel Valls organiser quasiment une conférence de presse au milieu de la nuit. Et ce n'est pas le seul exemple de cette nature. Hein. Il y avait l'affaire Redouane Faïd aussi. On sent qu'il est prêt à agir, à occuper le terrain non-stop, y compris, encore une fois, c'est au milieu des vacances, c'est au milieu de la nuit, pas de problème. Il y va.
Tout est bon pour une simple image sur BFM Télé et iTélé, sur les chaînes d'info en continu. Un exemple, souvenez-vous, la catastrophe ferroviaire de Brétigny. Manuel Valls, il est dans le Gard à l'heure où la catastrophe se déroule. Le lendemain, il va prononcer un discours politique très important et effectivement, le train déraille. Et donc, il va y avoir un questionnement au sein de son équipe pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas. Et il va effectivement utiliser les moyens de l'État pour partir en Falcon, direction Brétigny, et pour se rendre sur place pour une déclaration d'environ 2 minutes, avant de repartir aussitôt dans le Gard, alors même que le président, le Premier ministre et plusieurs ministres, dont le ministre des Transports et la Garde des Sceaux, ont déjà fait leur apparition. Donc il importe de dépenser de l'argent, de dépenser beaucoup de temps, ne serait-ce que pour apparaître 2 minutes sur le lieu de l'événement. Et c'est le calcul permanent, Manuel Valls, il est partout, tout le temps.
Vous écrivez, hein, c'est page 125, il se vit comme le ministre de l'actualité.
Oui, c'est lui qui le dit, il est le ministre de l'actualité, le ministre de l'événement. Alors, on parlait de la comparaison avec d'autres membres du gouvernement. Il faut dire qu'il a un sujet assez porteur, Manuel Valls. Hein. Il est le ministre des catastrophes naturelles, il est le ministre des faits divers, il est le ministre des cultes, donc avec beaucoup de questions relatives effectivement aux religions. Et aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de l'islam. Et donc, il est sujet aussi le ministre des libertés publiques. Et on le voit là à l'occasion de l'affaire de Dieudonné. Donc, c'est des sujets éminemment médiatiques et qui lui permettent d'avoir une exposition, une réactivité et surtout une mise en scène maximale de sa personne.
Alors, on va étudier dans un instant l'attitude des médias face à Manuel Valls. Mais juste pour rester encore quelques secondes sur ce travail de rouleau compresseur de communication du ministre de l'Intérieur. Un mot sur l'image, puisque vous étudiez chaque semaine les images, Éric Chavroux, dans Le Secret des Sources. Manuel Valls a évidemment beaucoup travaillé sur son look, comme on dit, son apparence, ces derniers mois, ces dernières années.
Le mutant du look, le surnomme même le Nouvel Observateur dans un diaporama qu'on vous fait découvrir sur notre page via un lien. Alors, on sait l'homme maître en communication, du cabinet Jospin jusqu'à l'équipe du candidat Hollande. Mais ces dernières années, on a beaucoup glosé aussi sur sa façon de s'habiller, son goût pour les cravates bariolées, puis les couleurs pastel, le beige, le rose, l'orange, et puis une préférence pour le violet. Alors ça, c'est peut-être un hommage aux républicains et puis à leur drapeau.
Républicain espagnol.
Et une tendance remarquée aussi pour le monochrome, le ton sur ton, donc cravate et chemise. Pour le blanc, notamment, on l'a comparé du coup à Eddie Barclay, jusqu'à même un VRP. Les guignols à l'époque s'en sont donnés à cœur joie avec la rédactrice en chef d'un magazine masculin. Et il y a eu la nomination au ministère de l'Intérieur. Donc là, on a l'impression qu'il y a un changement vraiment dans la palette. On tombe dans les noirs, les bleus, les gris. Certains journalistes évoquent aussi l'influence de sa nouvelle femme, violoniste.
Qui Gravois.
Qu'on les voit d'ailleurs ensemble jusque dans Paris Match, s'afficher en violet là aussi. Et il apparaît plus strict, cadré, un brin sévère, un peu dans les pas de celui qu'on cite évidemment très souvent, Nicolas Sarkozy, ou d'un Tony Blair, parce qu'il reste quand même un tout petit peu décontracté. Et pendant ce temps, le pendant à droite, c'est une autre figure politique montante, ambitieuse, NKM, qui elle apparaît en jean et basket dans la rue.
C'est la photo dont on a tant parlé, tant critiqué sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ouais. Un tout petit mot là-dessus, David
Rosalin, oui,
sur le changement de look, brièvement. Parce qu'on
bien sûr, s'il y a bien un domaine sur lequel, pour le coup, il n'est pas du tout professionnel, c'est le look. On le raconte dans notre livre « Valls à l'intérieur ». Il y a un jour, ses conseillers exaspérés par effectivement ces looks un peu plus que surannée et même franchement ridicule, ont constitué un dossier avec des photos des pires costumes, des pires couleurs, des pires camailleux jamais arborés par Valls. Ils lui ont déposé sur son bureau en espérant que ça change. Et lui leur a expliqué, mais vous savez, c'est Anne Gravois, sa compagne, qui est responsable de tout ça. Donc à
mais
partir de là, plus personne.
Et du coup, il a changé.
Mais le dernier épisode un peu significatif, c'était sa première sortie à Marseille. Souvenez-vous, il avait arboré un costume beige avec un imperméable beige, un peu dans le genre Colombo, qui lui avait valu de se faire allumer par les guignols. Et il avait tout de suite rangé au vestiaire ce type de couleur claire.
Alors on a compris le premier étage de la fusée, si j'ose dire, c'est sa volonté propre, Manuel Valls, d'être omniprésent sur ce terrain de la communication. Mais évidemment, ça ne fonctionnerait pas si les médias eux-mêmes ne mordaient pas en grande partie à l'hameçon. Et par définition, c'est parfois bon de le rappeler quand même, la médiatisation, c'est d'abord un choix des médias, l'œuvre des médias eux-mêmes. Alors, on va reprendre le cours du journal de TF1 de jeudi soir, après la décision du Conseil d'État sur le spectacle de Nantes. Un peu plus loin dans le journal, échange entre le présentateur Gilles Boulot et le chef du service politique Christophe Jacubicine.
Bonsoir Christophe Jacubicine.
Bonsoir.
On l'a vu, Manuel Valls a pris des risques dans cette affaire, politiquement et même juridiquement. Est-ce que vous pensez que ce soir, il l'a emporté?
Oui, pour le ministre de l'Intérieur, c'est évidemment une victoire politique, j'ai envie de dire, totale. C'était l'objectif d'ailleurs de Manuel Valls, en menant cette offensive contre Dieudonné, démontrer que la politique ne doit pas baisser les bras. La justice dit « je peux condamner », mais a posteriori, le ministre de l'Intérieur voulait interdire a priori avant les spectacles. On disait l'interdiction de ce type de spectacle rarissime et très difficile juridiquement. Eh bien, Manuel Valls a finalement gagné ce soir devant le Conseil d'État.
Les médias, dans leur grande majorité, ont concentré leurs analyses sur le rôle de Manuel Valls dans cette affaire. Un rôle, il est vrai, essentiel en soi, mais d'autant plus essentiel que les médias lui ont accordé un rôle central. On sent que la presse aime faire du Valls. Pourquoi, Nathalie Segonne, selon vous?
À cause de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il est omniprésent sur tous les dossiers. C'est indéniablement un bon client. C'est un député, un président de commission là, me disait récemment, quand il parle, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça imprime plus que quand Yamina Benguigui parle. Oui, voilà, c'est méchant pour Yamina Benguigui, mais c'est méchant aussi pour beaucoup d'autres ministres. C'est-à-dire que quand Manuel Valls parle, ça imprime aussi beaucoup plus que quand Pierre Moscovici parle ou Jean-Marc Ayrault. C'est comme ça. C'est aussi une affaire de charisme, c'est aussi une affaire de... C'est un ministre, il est, en ce point d'ailleurs, comparable à Arnaud Montebourg, c'est un des rares ministres qui finalement fait de la politique dans ce gouvernement avec Montebourg. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas seulement sur la gestion de son précaré, il fait de la politique, il s'engage, il ose, il transgresse, il provoque, il y va. Donc forcément, ça prend, les médias suivent, forcément. Enfin, ça serait une erreur professionnelle de ne pas suivre Valls là-dessus.
En même temps, ce qu'on trouve beaucoup dans les articles et les unes consacrées à Manuel Valls, c'est la référence au sondage et au fait qu'il est en tête dans les cotes de popularité. Encore cette semaine, c'est lui qui arrive en tête. Comme si le sondage, et c'est un phénomène qu'on connaît assez bien, qu'on a souvent débattu dans cette émission, comme si le sondage devenait la base de raisonnement de l'article journalistique, ce qui peut être aussi problématique.
Il y a une forme de circulation circulaire, je dirais, de dynamique qui se nourrit d'elle-même entre l'image et les sondages. Nathalie le disait, pourquoi les journalistes aiment faire du Valls? Pourquoi les télés d'info en continu aiment faire du Valls? Parce que d'abord, il offre une image claire, un message net, ce qui n'est pas le cas de ses collègues du gouvernement. Et puis, il y a quand même une forme d'accoutumance qui date des années Sarkozy. Souvenez-vous, quand Hollande est arrivé au pouvoir, ses conseillers nous expliquaient qu'il fallait se désaccoutumer, que c'est pas parce qu'on n'était plus à l'ère d'un président qui sortait et faisait des annonces tous les jours qu'il fallait absolument se dire « mais que fait le président? Il ne fait rien ». Or, il y a une forme, effectivement, de léviathan qu'il faut nourrir, une forme de balle
médiatique. Il y a une addiction au phénomène Sarkozy qui fait que
forcément, la mécanique de Valls, qui est d'offrir un produit bien formaté et d'un parfait marketing politique tous les jours sur un fait divers, sur une émeute de cité, etc. Eh bien, c'est une première chose. Alors, les sondages, très intéressant, parce que Valls, là aussi, il est extrêmement professionnel et calculateur dans la construction de son rapport à l'opinion. Quand vous regardez la progression de la courbe, elle est quasi mathématique. C'est 20 points avant les primaires, c'est 30 points à l'issue des primaires, c'est 40 points à la fin de la campagne présidentielle de François Hollande, dont il a été le directeur de communication. C'est 50 points quelques mois après l'installation à Beauvau. Et aujourd'hui, selon l'Ipsos, c'est 60 points, voire 65. Donc, en deux ans, il a une progression qui n'est, je pense, jamais, qui n'a jamais été constatée dans l'histoire de la Ve République, dans une progression qui est uniquement basée sur la surexposition, la clarté de l'image et, je dirais, une forme de virulence de la parole.
Oui, Nathalie Segonne, vas-y.
Il y a aussi une particularité dans sa communication, c'est qu'il ne prend pas de risque non plus sur le plan médiatique. C'est-à-dire qu'il ne fait, comme le disait David, que des formats courts pour BFM Télé, pour iTélé, etc. Du show sur les...
Des très gros médias et des interventions assez courtes.
Des très gros médias, mais sur des interventions très courtes, à chaud, etc. Il ne s'épuise pas dans des longues émissions style Le Grand Jury, Le Grand Rendez-vous, où c'est les journalistes qui parlent aux journalistes, qui sont quand même très peu écoutés. Enfin, excusez-moi, mais...
Très difficile de le faire venir sur France Culture, par exemple, pour ne rien
et
vous
très
cacher.
Peu grand
c'est
public.
Ça, c'est
pour lui, ça ne rapporte rien, c'est pas efficace. Et ça, c'est le microcosme qui parle au microcosme. Il ne prend pas le risque d'aller dans ces émissions.
Le Monde lui a proposé une grande interview politique depuis mai 2012, il ne l'a jamais accordée.
Alors, dans le cas d'espèce, l'épisode de cette semaine, l'irruption et la montée en puissance de Manuel Valls dans l'affaire Dieudonné ont évidemment mécaniquement conduit les médias à en faire beaucoup sur cette histoire. Beaucoup et même trop, selon certains. Je voudrais qu'on écoute. Alors, c'est un commentaire politique, certes, mais c'est intéressant ce qu'elle dit. Rachida Dati, interrogée en milieu de semaine par Jean-Jacques Bourdin sur RMC.
Moi, je vais vous dire ce qui me met très mal à l'aise dans cette affaire. C'est l'hypermédiatisation, je trouve, de cette affaire. Parce que...
Elle est voulue, selon vous? Moi, elle est voulue par Manuel Valls.
Justement, je vais vous répondre. Je dis, oui. Je trouve que cette hypermédiatisation donne un écho et une tribune à Dieudonné qu'il n'aurait jamais eu. Et moi, ce qui me gêne chez M. Valls, je pense qu'il fait une diversion en étant mobilisant sa fonction, son statut, son ministère, ses préfets, en mobilisant, je trouve, de manière excessive sur cette affaire.
Alors, bien entendu, il ne s'agit pas ici de minimiser le caractère insoutenable et antisémite des propos de Dieudonné. En revanche, on peut s'interroger sur la question de la proportion, certains l'ont fait, sur la question de l'hyper-médiatisation du sujet. Et est-ce qu'on n'est pas là, dans le cas d'espèce, dans ce cas typique, où on est en présence d'un discours simplificateur, en grande partie promu par le ministre de l'Intérieur, du pour ou contre, et les médias adorent ça?
Bien sûr, il propose des choix nets et clairs et donc parfois simplificateurs. Sur le cas de M. Mbala Mbala, il faut quand même rappeler que finalement, très peu de gens en parlaient avant cette histoire, alors que la teneur des propos, la teneur antisémite et la teneur inadmissible de ce spectacle, eh bien, elle était la même avant, mais personne n'en parlait, ce qui fait que finalement, malgré de multiples condamnations, eh bien, ce spectacle et ses propos pouvaient continuer à être tenu. Donc, Manuel Valls, vous le disiez tout à l'heure, il y a une forme de conviction, il est réellement heurté par ses propos et cette mise en scène bassement antisémite. Et puis, effectivement, il veut se mettre en scène. Mais il considère que là, il est dans le, la bataille politique autant que juridique et que donc, il faut faire appel à l'opinion. On est toujours dans le même mécanisme, c'est-à-dire qu'il parle fort, clair, net, parfois très simple, parfois trop simple, mais au moins, il résonne dans l'opinion. Et de, qu'est-ce qu'on va retenir de ce début d'année ? C'est franchement moins le tournant, entre guillemets, social-libéral annoncé par François Hollande lors de ses vœux du 31 décembre qu'en réalité, eh bien, cette polémique avec Manuel Valls.
On a parlé de, des relations de Manuel Valls avec les médias. Quelles sont ses relations avec les journalistes et particulièrement, est-ce qu'il parle à la presse, je veux dire en off, là, pour le coup, hein ? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'entretient avec les journalistes ?
David Revaudel. Je voudrais juste revenir sur la notion de bon client tout à l'heure. Il y a bon et bon client hein, pour la presse. Il y a des politiques qui vous racontent beaucoup de choses, qui vous livrent toutes les coulisses. Vous n'avez qu'à ouvrir votre carnet et à tout noter pour recueillir vraiment, pour avoir accès au dessous des cartes ou aux coulisses de telle ou telle réunion politique ou telle décision. Il y en a d'autres qui ne le font jamais et qui se limitent à de la langue de bois. Et j'ai quand même envie de dire que Manuel Valls, il se situe, alors à quelques exceptions près, mais plutôt dans la deuxième catégorie. C'est quelqu'un qui ne se livre pas, qui ne livre, alors sur le plan affectif, évidemment, jamais le moindre état d'âme. Et là, c'est une différence fondamentale avec Sarkozy. Quoique le rythme soit le même, quoique le fonctionnement soit le même, Sarkozy, on pouvait lire son affect à ciel ouvert. Manuel Valls, vous ne pouvez pas. Vous pouvez parfois déceler une réaction d'irritation. Ça, c'est une première chose. Quant aux confidences, quant aux off, quant aux grosses informations, il peut vous en donner, mais c'est uniquement et uniquement parce qu'il a parfaitement calculé le dispositif médiatique qui va accompagner et parce que ça va lui servir. Je dirais que c'est un peu comme tous les politiques, mais lui a poussé cette logique à l'extrême. Ne comptez pas sur Manuel Valls pour la petite phrase, le mot assassin. D'ailleurs, vous remarquerez qu'entre François Hollande et lui, alors que c'est quand même extrêmement compliqué, et nous le décrivons en détail dans le livre, eh bien, il n'a jamais rien dit publiquement, en France du moins, de ce qu'il pense de François Hollande, que fondamentalement, il ne trouve pas très bon, on peut le dire, et de ses rapports avec lui qui sont quand même de plus en plus compliqués et tendus.
Et les relations de son entourage avec la presse, ses conseillers proches, Yves Colmoux, Sébastien Gros, Harold Ozy, etc., le cercle rapproché au ministère de l'Intérieur, Nathalie Segone, il y a des relations avec les journalistes, ils causent, ils causent pas.
Il y a des relations, mais vraiment réduites au strict nécessaire, quand ça les arrange, quand ils voient l'intérêt, effectivement, de nous parler. Moi, le nombre de fois où ils ne m'ont pas rappelé parce que ça ne les intéressait pas d'intervenir sur tel sujet, j'ai parfaitement compris le message, mais ils nous utilisent. C'est uniquement quand ça les intéresse. C'est pas du tout pour donner des informations, c'est vraiment pour instrumentaliser la presse.
Et toujours dans l'entourage, cette fameuse, entre guillemets, qu'on a surnommée comme telle, en tout cas bande de Tolbiac, c'est-à-dire venant des bancs de l'université de Tolbiac, Manuel Valls, Stéphane Fuchs et Alain Boer.
Alors ça pour moi c'est le vrai mystère.
Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça parle aux journalistes, cette bande-là ?
Alors, elle existe, cette bande, mais en réalité, et d'ailleurs on le démontre en détail dans le livre, notamment Alain Boer, il n'a aucune opérationnalité sur les choix politiques, il peut le conseiller. Il peut lui donner des idées, mais en réalité, Manuel Valls, il a déjà son avis. C'est la même chose pour Stéphane Fuchs. Juste un mot pour revenir sur l'équipe. Cette équipe ne fait jamais de cadeaux, ne fait jamais de sentiments. Et pour ajouter un dernier élément à ce qu'a dit Nathalie, cette équipe est la plus, pardonnez-moi, mais la plus emmerdante de toutes les équipes de communication et de conseillers de ce gouvernement. C'est-à-dire que quand vous avez le malheur de faire un papier qui leur déplaît ou d'écrire trois phrases qui leur déplaisent, vous avez les pires ennuis. Enfin, j'exagère un petit peu, mais vous avez tout de suite Harold Ozy, le conseiller com qui vous appelle au téléphone, pour débriefer avec vous pendant des heures le moindre mot, la moindre ligne, et essayer de comprendre le sens. Donc, ce sont des gens qui ne lâchent absolument rien.
Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de relation empathique entre les journalistes et l'équipe de Manuel Valls. Ça se concerne dans vos propos.
Ce que dit David sur Harold Ozy, c'est il y a quelques années, Manuel Valls le faisait lui-même. Enfin, j'étais au Parisien, j'ai été témoin de nombre de coups de fil à l'édition, aux journalistes de l'édition où se situe sa commune Évry, aux journalistes du service politique. C'est-à-dire que ce travail-là de justifier mot à mot son article, il le faisait lui-même, donc on sait d'où ça vient.
Vous avez souvent des SMS de Manuel Valls, lui-même, ministre de l'Intérieur, pour dire c'est scandaleux, votre titre est scandaleux, ou votre analyse est scandaleuse. Et là, il y a une grande différence, par exemple, avec François Hollande, qui lui a des relations extrêmement débonnaires et bonhomme avec les journalistes, qu'il aime bien, qu'il ne peut pas s'empêcher de recevoir, auquel il ne peut s'empêcher de répondre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il leur livre des scoops 12 fois par jour. Il est aussi suffisamment malin et tactique pour ne pas le faire, mais c'est une forme de rapport extrêmement, extrêmement différent.
Les médias font-ils ou pas la com de Manuel Valls ce matin dans Le Secret des Sources? Vous critiquez, vous commentez, vous complétez comme toujours sur franceculture.fr. Dans un instant, on prend un peu de recul avec le regard de l'universitaire Isabelle Vera-Masson et la correspondante argentine à Paris, Luisa Corradini. Mais d'abord, dans la galaxie Valls, voici la compagne, la violoniste Anne Gravois, avec son groupe Traveling Quartet, c'est leur version de Let It Be. Isabelle Vera-Masson, vous êtes, je le rappelle, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, membre de notre cercle d'observateurs des médias dans Le Secret des Sources. Votre regard sur la séquence de cette semaine entre Manuel Valls et Dieudonné Mbalambala, opération de communication ou pas?
Alors, tout d'abord, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Le fait que les médias se laissent emporter par les hommes politiques, c'est quelque chose que l'on vérifie régulièrement. C'est-à-dire que l'agenda des médias, il est quand même fixé en général, presque exclusivement par les hommes politiques, et non pas à l'inverse. Donc ça pose un problème général, me semble-t-il. Quant à Manuel Valls, il est vraiment typique de l'homme qui fonctionne à coup médiatique, c'est-à-dire à la fois des sondages en amont, sur quels sont les terrains sur lesquels je peux intervenir sans risque, vous le disiez, le coup médiatique avec, face à l'ensemble des médias avec une stratégie très claire, et ensuite de nouveau des sondages pour vérifier que le coup médiatique a fonctionné. Il me semble que dans l'affaire de Dieudonné, on est au cœur de ce type de stratégie, avec ce qui me dérange le plus, c'est le risque que font porter ce genre de coup médiatique à la démocratie, comme si finalement ce n'était pas vraiment le problème. C'est-à-dire que ce qui compte pour Valls, c'est, à mon avis, en ce qui concerne Dieudonné, de redorer son blason politique après l'affaire des Roms, hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être populaire en France, surtout auprès de l'électorat de droite, pour avoir la possibilité de devenir Premier ministre. Il faut être accepté par son propre camp. Et après les errements en ce qui concerne la gauche et la gauche de la gauche concernant les Roms, il a fallu, à mon avis, dorer son blason à propos autour d'un cas extrêmement peu risqué qui est l'affaire de l'antisémitisme. C'est quelque chose, ça il faut le dire constamment.
Je crois c'est pas une raison pour ne pas dénoncer.
Non, mais je crois bien sûr. Mais l'antisémitisme n'est pas un problème en France. L'antisémitisme, là, on vient encore d'avoir une étude du Cevipof, Vincent Thiberge, montre à quel point elle a reculé dans notre pays d'une manière massive.
Par exemple, avec l'affaire Mohamed Merah.
Mais alors, il ne faut pas confondre une minorité active. Qui est très active, très très dangereuse, avec la perception qui est de 60 millions
de
Français.
Vous avez vu le succès de Monsieur Dieudonné sur les réseaux sociaux?
Oui, mais les réseaux sociaux, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec une opinion.
Voilà. Présence de l'antisémitisme en tous les cas, France, même si c'est un
en tous les
sujet,
cas, c'est, on voit bien que c'est faire prendre un risque à l'opinion, d'obliger les gens à se positionner sur des choses extrêmement confuses comme antisionisme, antisémitisme, le rire ou la politique, l'humour. Et ça, je trouve que c'est dangereux parce qu'on voit bien que la question, à mon avis, Manuel Valls ne se pose pas les problèmes du risque qu'il fait courir à la cause, à ses causes. Et la cause de la lutte contre l'antisémitisme est fondamentale parce que ce qui compte pour lui, c'est le coup médiatique. Ce n'est pas la première fois. Je crois que l'affaire des Roms, on avait vu la même chose. Et il recommence. Il a gagné. Et je m'en félicite parce que je préfère savoir que Dieudonné Mbala ne profère pas ses horribles propos constamment. Mais il aurait pu perdre. Et là, ça aurait été très, très, très dangereux.
Mais ce que vous semblez nous dire, c'est que les médias sont piégés un peu.
Comme les hommes politiques. Je veux dire, comment, d'une certaine manière, Valls demande aux gens de se positionner pour ou contre. Pour ou contre l'antisémitisme, d'une certaine manière. Alors que la question, elle n'est pas là. Qui peut se dire antisémite ? Je veux dire, aucun homme politique, aucun journaliste ne peut prendre ce propos-là. Or, en demandant aux gens pour ou contre, parce que c'est ce qui s'est passé, eh bien, ils piègent chacun. Et on voit bien qu'à chaque fois que les gens essayent de justifier, on l'a bien vu pour la Ligue des droits de l'homme, lorsque la Ligue des droits de l'homme ou Edwy Plenel, lorsqu'ils essayent de montrer que la liberté d'expression est peut-être plus importante que de laisser un taré faire des spectacles, eh bien, ils sont dans une situation presque impossible à tenir. Et ça, je pense que c'était quelque chose de tout à fait conçu et élaboré par Manuel Valls.
Mais est-ce que les médias n'ont pas une part de responsabilité dans, on va dire, l'hystérisation du sujet ? Par exemple, mettre des caméras partout devant le Zénith de Nantes et faire des directs non-stop, c'est participer d'une forme d'hystérisation du sujet.
Il est clair que Manuel Valls communique avec les chaînes d'information continue. Je veux dire, il est un homme de son temps, il a réfléchi à l'ogre médiatique qui demande de l'information, et il fonctionne complètement en fonction de ça. Il sait qu'en donnant à manger à l'ogre, et en particulier aux chaînes d'information continue, il sera entendu. Donc l'hystérisation, elle vient du système médiatique contemporain, elle vient de là, et c'est très difficile pour les chaînes médiatiques, pour les chaînes d'information continue d'aller contre, et c'est très difficile pour les journalistes aussi de réagir, et Manuel Valls joue de cela, et c'est là que je pense qu'il joue un peu avec le feu.
Alors avant de nous retourner vers Nathalie Segone et David Revaud-Allonne, un autre contrepoint, c'est le contrepoint étranger, puisque cette affaire a aussi fait les gros titres à l'étranger.
The artist called Dieudonné in one of his recent shows. This number is called The Victimization Championships, in which he plays various characters pleading the cause of races that have suffered in history.
Extrait en l'occurrence d'un reportage de Hugh Schofield, correspondant à Paris de la BBC. Et nous sommes en ligne à présent avec nous, avec un autre correspondant de la presse étrangère en France, Luisa Corradini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante à Paris depuis de longues années pour le quotidien argentin La Nation. Vous connaissez bien la société française. Comment est-ce que vous avez regardé l'épisode de cette semaine et particulièrement le traitement de Manuel Valls par les médias ?
Mais écoutez, moi, en tant que journaliste, je peux vous demander, ou je voudrais demander à mes collègues, que peut-on faire d'autre ? Notre obligation, c'est de raconter ce qui se passe. Ça, c'est l'information. Alors, évidemment, nous avons des règles. Il faudrait qu'on revienne parfois à nos fondamentaux, comme disent les sportifs. Le premier, c'est dire la vérité avec des sources vérifiables et respecter la loi. Ça, c'est élémentaire. C'est vrai qu'on est piégé parce que si M. Valls veut utiliser la presse, il peut nous utiliser tranquillement. On ne peut pas éviter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne parle pas ? On ignore ? On n'envoie pas des caméras ? C'est absolument impossible. C'est la quadrature du cercle. Donc, je vois mal mes collègues faire autrement. C'est vrai aussi que la nature de la presse française a changé énormément ces dernières années. Je le regrette.
C'est-à-dire ?
Certainement conséquence de la crise économique. Surtout la presse écrite doit vendre. Ce n'est pas certainement le cas du service public, mais tous les médias privés doivent vendre. Et donc, on rentre bêtement dans ces systèmes d'hystérisation et de dire un peu n'importe quoi et du scandale, si vous voulez.
On choisit le sujet facile, c'est ça que vous voulez dire ?
Exactement, parce que ça produit un cercle vicieux, c'est-à-dire plus vous en parlez, plus le public vous demande de parler. C'est vraiment très dangereux. Je peux dire, par exemple, les scandales des 100 jours d'un président, par exemple. C'est ridicule d'évaluer l'action d'un président à 100 jours d'avoir pris le pouvoir. Et pourtant, vous vous souvenez très bien ce qui s'est passé en France. Avant, ce n'était pas du tout comme ça. Maintenant, on suit la tendance anglo-saxonne, et je dirais malheureusement la tendance latine. Moi, je connais très bien ces phénomènes parce que la presse latino-américaine est une presse à scandale. Et donc, moi, je vois ces tendances avec beaucoup, énormément de préoccupations.
Luisa Corradini, vous restez en ligne avec nous. J'aimerais me tourner à nouveau vers Nathalie Segone de l'Opinion et David Revaud-Allonne du Monde. Dans quelle mesure la focalisation sur les débats simples, pour reprendre la formule à l'instant, ne conduit pas les médias en oublier les sujets compliqués. Et pour revenir plus précisément au ministre de l'Intérieur, dans quelle mesure ça ne conduit, la focalisation sur le personnage Valls ne conduit pas les médias à oublier d'enquêter sur le fond et donc sur la politique de Manuel Valls et tout ce qu'il a décidé, David Revaud-Allemand.
Alors, pour ce qui est d'enquêter sur la politique de Manuel Valls, je vous renvoie évidemment à Valls à l'intérieur, le livre que nous venons d'écrire, ce que nous avons passé un an, donc nous avons essayé de le faire. Mais c'est vrai que de manière plus générale, c'est difficile d'enquêter sur lui parce qu'il y a ce contexte de zapping permanent où un sujet chasse l'autre. Aujourd'hui, nous avons, enfin hier, nous avons eu l'affaire révélée par Closer concernant la liaison du président. Combien de temps va-t-elle durer ? C'est une bonne question. Est-ce que moi, je me demande si dans deux jours, on en parlera encore. C'est-à-dire que...
Vous parlez du sujet dans la presse, pas de la liaison.
Oui, pardon, du sujet dans la presse révélé, enfin, montré par Closer. Donc, effectivement, combien de jours ça va durer ? On a un zapping permanent. Toutes les 24 heures, un sujet chasse l'autre. Tous les deux jours, une polémique chasse l'autre. Une initiative du président disparaît, s'évanouit en termes d'impact politique au bout de 48 heures. Et donc, forcément, Manuel Valls, vous disiez que l'ogre, finalement, il fallait nourrir l'ogre. Mais lui, il s'est parfaitement adapté à cette façon de nourrir l'ogre, mais de façon superficielle, qui aussi empêche les journalistes d'enquêter et d'aller au fond des choses.
Parce qu'encore une fois, si on fait deux colonnes, on met une colonne où il y a les articles sur Manuel Valls en tant qu'individu, que personnage, et une autre colonne où on met les articles ou les enquêtes sur la politique migratoire, les Roms, la police, enfin tout ce qui est marge au ministère de l'Intérieur, je veux dire, on sait laquelle des deux colonnes est de très très loin la plus remplie que l'autre. C'est un petit peu préoccupant, non, Nathalie Segaud ?
Il y a une colonne qui est quand même plus facile à remplir que l'autre. Il y a une crise de la presse qu'il ne faut pas nier. Moins de moyens, moins de temps pour travailler, moins de temps pour faire des enquêtes. Il y a de moins en moins de médias qui sont capables de consacrer du temps pour faire une enquête de fond sur comment Manuel Valls, sur sa politique. Alors après, mettre tous les médias dans le même sac, il y a une BFMisation de la vie politique. C'est-à-dire que voilà, ça, un sujet chasse l'autre au rythme de BFM TV ou de iTélé. Mais il y a aussi des médias qui décryptent, qui analysent. Je pense que tout le monde essaie de faire son boulot avec ses moyens. Enfin, on ne peut pas dire les médias comme ça. Et tout le monde est utile. Enfin, dans cette, moi, j'ai été frappée jeudi en tweetant un article consacré à Manuel Valls et l'affaire Dieudonné, du nombre de réactions, de commentaires sur ce tweet. C'est-à-dire que c'était... tout le monde a voulu réagir. Enfin, c'est aussi, ça intéresse les gens. On ne peut pas passer à côté de sujets qui font réagir. Enfin, on ne peut pas ne pas donner aux gens ce dont ils ont, ce sur quoi ils ont envie de lire et de s'informer. On ne peut pas dire, bah non, ça c'est pas bien. Nous, on est une espèce de ligue de vertu et on ne va pas parler de ça parce que c'est pas bien. Enfin.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, non, c'est la question de la loi de l'offre et de la loi de la demande, finalement.
C'est la loi de la, c'est la question de l'agenda des médias dont je parlais. Et c'est vrai que nous sommes dans un pays, alors je ne pourrais pas faire des comparaisons internationales, dans lequel ce sont les hommes politiques qui fixent l'agenda des médias. Alors, bien sûr, ça peut avoir un côté un petit peu choquant. Mais il faut reconnaître que les hommes politiques s'appuient, on le disait tout à l'heure, sur des sondages qui reflètent tout de même un peu l'état de l'opinion. Donc, quelque part, il y a là une vertu. Et puis, l'autre vertu, c'est que ça fait quand même discuter, débattre, et que nous sommes dans une démocratie participative dans laquelle les médias jouent leur rôle, qui n'est pas toujours négatif. Moi, j'ai découvert à l'occasion de ce débat sur Dieudonné un certain nombre de choses. D'ailleurs, je trouve que l'article du Monde qui analysait le public de Dieudonné nous a quand même ouvert l'esprit. Et c'était un peu grâce à ce débat.
Alors, vous avez prononcé le mot Twitter, Nathalie Segaud, ça me fournit évidemment la transition. Éric Chavroux, vous qui êtes aussi l'homme du multimédia dans Le Secret des Sources, Manuel Valls est un homme de l'ère Internet et en même temps, maîtriser les réseaux sociaux, c'est chose difficile, a fortiori quand on a un adversaire de taille en face de soi. C'était le cas cette semaine avec cette fameuse dieudosphère dont vous nous parliez la semaine dernière. Comment s'en est-il tiré, si j'ose dire ? Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux cette semaine sur ce sujet ?
Alors, ce qu'on remarque d'abord, sondage à l'appui là aussi, c'est qu'il est hyper présent. C'est des pics inédits, des records de citations. Je précise bien de citations, parce que évidemment, ça ne veut pas dire que c'est flatteur à son égard. on l'expliquait la semaine dernière, les partisans, les soutiens de Dieudonné sont particulièrement actifs. Ils ont par exemple ressorti une ancienne photo du ministre entouré de jeunes qui faisaient la quenelle, Manuel Valls à l'époque ne se doutant de rien. Et puis il y a une vidéo aussi qui a été beaucoup partagée cette semaine, c'est celle d'un jeune qui interpelle Manuel Valls à l'occasion d'un déplacement et qui lui demande des emplois plutôt que de se préoccuper de ces fameuses quenelles.
Alors, on dit que Manuel Valls est un homme attentif sur Twitter. Je crois que vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre, David Revaud-Dallone. En même temps, ce n'est pas un pratiquant intensif du gazouillis, Eric.
Non, alors c'est vrai que sa fonction n'est pas des plus compatibles avec ces médias-là. Mais tout de même, les temps changent. François Hollande lui-même vient à nouveau de tweeter sur son compte personnel. Quand Manuel Valls a maintenu son compte ouvert, avec d'ailleurs énormément d'abonnés, hein, plus de 60 000, mais depuis mai 2012, plus rien. Alors comme si en fait, après les élections, Twitter n'existait plus. Ça fait un peu désordre pour celui qui souhaite, et qui l'a répété d'ailleurs, une police 3.0, qui tweeterait un peu à l'image d'un modèle espagnol, et celui, du coup, que Dieudonné ne se prive pas de narguer avec un message jeudi qui a été partagé, repris plus de 6000 fois.
Et on l'a même senti vaguement approximatif, Manuel Valls, sur le sujet chez nos amis de France Inter hier matin.
Oui, ou même très, très optimiste, pour le moins, puisqu'il a déclaré que le gouvernement avait réussi, notamment sur Twitter, je le cite, à ce que la parole antisémite ou homophobe ne se diffuse pas. Alors, en fait, je crois qu'on en est vraiment très, très, très loin. C'est vrai que Twitter a finalement, sous la pression du gouvernement, cédé des informations concernant des internautes supposé avoir lancé sur Twitter des propos antisémites, mais c'est vraiment le début d'un très long processus. Et puis il y a une semaine encore, la LICRA publiait une tribune dans laquelle elle soulignait le déferlement sur les réseaux sociaux ces derniers mois de paroles justement antisémites, homophobes, très violentes. Et on peut supposer que ce qui se passe en ce moment avec le duel entre les deux hommes, Valls et Dieudonné, va encore relancer tout ça.
On évoquait tout à l'heure, référence souvent faite dans les médias quand on parle de Manuel Valls, on évoquait Nicolas Sarkozy, sa stratégie de communication, sa relation aux médias. J'aimerais pour finir qu'on s'attarde sur une autre comparaison.
When they try to intimidate us, we will not be intimidated. When they seek to change our country or our way of life by these methods, we will not be changed.
Vous aurez peut-être reconnu l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ton très solennel juste après les attentats de Londres en juillet 2005.
We will not be divided. The purpose of terrorism is just that. It is to terrorize people. And we will not be terrorized.
Affirmant que les terroristes ne parviendront jamais ni à intimider, ni à diviser, ni à terroriser les Britanniques et que les valeurs de la démocratie seront toujours les plus fortes. Dans quelle mesure Tony Blair n'est pas un référent plus pertinent, David Revaud-Dallone, plus pertinent que Nicolas Sarkozy, si on analyse le positionnement idéologique d'une part, mais aussi la relation aux médias dans tout ce qu'elle a de professionnel de Manuel Valls?
Vous avez raison. D'ailleurs, Tony Blair est une figure qu'il cite fréquemment dans ses livres. Il y a un voyage en Angleterre dont il parle très fréquemment, qu'il a fait avec Lionel Jospin, qui l'a fortement marqué à l'époque du gouvernement Jospin. Jospin, lui, s'était assez démarqué, largement démarqué du social-libéralisme de Blair, cette fameuse troisième voie. Valls, évidemment, l'assume beaucoup plus. Donc, sur le positionnement politique, vous avez raison, c'est plutôt du Blair à la française. Quant à Sarkozy, il y a beaucoup de similitudes. La place Beauvau, on l'a dit, la communication à grande vitesse, la surexposition. Mais il faut dire que quand Sarkozy arrive à Beauvau, c'est en 2002. Aujourd'hui, enfin, quand Valls arrive à Beauvau, c'est en 2012. C'est 10 ans plus tard. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, et notamment les tweets, notamment les réseaux sociaux, et notamment les chaînes d'information en continu qui, on vient de l'écrire, qui ont quand même changé pas mal de choses. Et Valls, il est tout à fait conscient de cela. Et c'est ça qui le distingue. On parlait à l'origine de l'émission du professionnalisme. C'est ça qui le distingue de tous les autres. C'est qu'il a compris le système. Il a compris cet ogre médiatique qu'il fallait nourrir. Et quand on le compare à François Hollande, qui lui n'a pas compris, eh bien, il est encore François Hollande au rythme des dépêches AFP. Vous savez que l'on lisait en rouleau sur papier. C'est ce qu'il faisait quand il était premier secrétaire du PS. Et donc, là, il y a une vraie différence en termes de rythme. de réactivité et donc à l'arrivée de présence.
Parce que cette communication ultra-professionnelle, c'était le mot que vous disiez tout à l'heure, presque froide, enfin je veux dire mécanique, très étudiée, c'est ce que faisait Alastair Campbell avec Tony Blair, et cette capacité à réagir très très vite, en particulier sur les sujets liés aux valeurs, en donnant une présentation très manichéenne, le bien, le mal, je suis le bien, le mal, il faut... Là, c'est très Blair. Enfin,
oui, c'est très blairiste, effectivement. Campbell, Alastair Campbell, c'est un des modèles de com de Valls. Valls, c'est un communicant d'abord, avant tout. Il était communicant chez Lionel Jospin, il était porte-parole de Matignon. Il a été communicant, on l'a dit, pour sa propre personne. Il a été communicant de François Hollande, premier communicant, puisque directeur de la com pendant la campagne. Et aujourd'hui, certes, il est ministre de l'Intérieur, mais il est aussi communicant. Ce qu'il incarne, il y a beaucoup de choses, hein, mais ce qu'il incarne d'abord, et c'est ce qui a fait sa fulgurante progression dans les sondages, c'est l'autorité, c'est-à-dire l'imposition de sa personne dès lors qu'un train déraille, dès lors qu'il y a une crue quelque part, dès lors qu'un grand bandit s'évade de prison ou dès lors qu'une saisie record de cocaïne est effectuée. Et donc, c'est ce qu'il a théorisé, c'est l'autorité de l'État à l'heure de BFM Télé. L'État, on l'écrit dans notre livre, c'est un peu Valls plus BFM Télé en 2013.
Si je dresse cette comparaison, c'est parce qu'à un moment donné, comme on sait, les médias britanniques se sont aperçus qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine par Tony Blair à ce moment de la guerre en Irak, évidemment. Donc on est en droit aussi de se poser la question si un jour les médias français vont se dire, est-ce que je me suis fait rouler dans la farine par Manuel Valls et Nathalie Segaud et...
Ça arrive. Peut-être, mais il y a quand même une difficulté pour Manuel Valls à se réclamer de Tony Blair. C'est que Tony Blair est identifié chez les Français d'un point de vue de ligne économique, alors que Valls se positionne par rapport à l'autorité de l'État, aux valeurs républicaines, etc. Donc, et pour beaucoup de Français, je pense que le positionnement économique de Valls n'est pas clair. Il n'est pas encore défini. Et il est, de ce point de vue-là, il n'est pas encore assez avancé, si j'ose dire, dans la carrière, pour pouvoir se citer Blair comme référence. Par ailleurs, Blair s'est quand même beaucoup engagé avec Nicolas Sarkozy dans le précédent quinquennat, l'a beaucoup soutenu, est venu... donc, c'est quand même délicat pour... on peut le comparer, hein, nous, on a toute la...
S'en inspirer, mais pas le revendiquer, c'est ça que vous voulez dire.
C'est quand même délicat de le revendiquer pour lui.
Allez, comme toujours dans Le Secret des Sources, le dernier mot revient à Yacine Bouzard sur la musique du groupe IAM. Yacine a retrouvé un débat de mars 2003 qui avait opposé ou réuni, c'est selon, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Le second serait-il le petit frère du premier? C'est le clin d'œil, un brin iconoclaste comme toujours, qui clôt Le Secret des Sources cette semaine.
Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes d'origine hongroise, moi je suis d'origine espagnole. Je suis marqué comme vous par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. L'école, la République, nous ont donné les chances inouïes.
Bien sûr qu'on est d'accord.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Et je suis d'accord avec votre expression dans notre pays, c'est légitime. Et vous le faites avec... énergie, ce qui explique sans doute votre succès.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Si vous aviez tellement de bonnes idées, il ne fallait pas se gêner pendant 5 ans pour le faire. Je dis, si ça avait si bien marché, on ne serait pas là.
Et je serais à votre place.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Si j'ai bien compris, hein, je ne veux pas caricaturer, j'apprécie Manuel Valls, c'est qu'il est d'accord avec tout ce que je fais.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
David Revaud-Dallon, Nathalie Segoun, Louisa Corradini, Eric Chavreau et Isabelle Verramasson étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Merci à tous. David Revaud-Dallon avec Laurent Borédon, Valls à l'intérieur, c'est donc paru avant-hier chez Robert Laffont. Les médias font-ils la com de Manuel Valls? À réécouter, à télécharger, à commenter, c'est à vous de jouer sur franceculture.fr. Et puis sachez que lundi soir, après-demain soir, Hervé Gardel dans Le Grain à Moudre reviendra sur le débat autour de Dieudonné avec Raphaël Enthoven, Edwy Plenel et Jean-Noël Jeannet. Dans quelques minutes, après le journal de Lucie Barbarin sur France Culture, scène de la vie conjugale au menu de répliques. Alain Finkielkraut reçoit Yasmina Reza et Emmanuel Pagano. Prenez soin de vous.
Pourquoi les journalistes aiment faire du Valls? Pourquoi les télés d'info en continu aiment faire du Valls? Parce que d'abord, il offre une image claire, un message net, ce qui n'est pas le cas de ses collègues du gouvernement.
l'hystérisation, elle vient du système médiatique contemporain, et c'est très difficile pour les chaînes d'information continues d'aller contre, et c'est très difficile pour les journalistes aussi de réagir, et Manuel Valls joue de cela, et c'est là que je pense qu'il joue un peu avec le feu.
Il ne prend pas de risques non plus sur le plan médiatique, c'est-à-dire qu'il ne fait que des formats courts pour BFM Télé, pour iTélé, etc., des interventions très courtes, à chaud, etc. Il ne s'épuise pas dans des longues émissions style Le Grand Jury, Le Grand Rendez-vous, où c'est les journalistes qui parlent aux journalistes.